plus on est fort en analyse, plus on est capable de comprendre très très bien ce qui se passe au niveau du détail, et finalement moins on comprend ce qui se passe au niveau global. Alors, je vais vous donner, moi je pensais comme ça, j'étais dans la causalité encore dans les années 80 et même un peu 90, et puis je me suis mis à développer des systèmes d'intelligence artificielle, des systèmes de vision artificielle qui étaient les premiers à l'époque, hein, au tournant des années 2000. Après sont arrivés les nouveaux systèmes avec les nouveaux réseaux de neurones, mais à l'époque j'avais moi-même développé des réseaux de neurones sur une base un peu particulière qu'on appelle le plongement fractal. C'est de là qu'est issu le fait que j'ai été primé pour mes travaux, hein. C'est à partir de mes travaux en vision artificielle. Et je pensais à cette époque que la conscience devrait pouvoir émerger, et j'ai fini par aboutir à la conclusion que il y avait deux solutions. Soit je m'étais trompé quelque part dans le développement de mes réseaux de neurones, soit si je m'étais pas trompé, la conscience ne pouvait en aucun cas émerger d'un réseau de neurones, même de manière extrêmement complexe. C'est-à-dire, alors je vous explique un peu l'affaire. Il y a eu deux étapes chez moi de prise de conscience de cela. La première étape où j'ai douté, et il m'a fallu encore 10 ans pour comprendre que c'était impossible que la conscience émerge de, par exemple, dans ce qu'Alice a expliqué, la théorie de l'espace de travail global. On a donc les différentes aires cérébrales qui communiquent entre elles, et au cours de cet échange, il apparaîtrait comme par magie la conscience. C'est cela qui est impossible. Alors, il y a eu deux étapes chez moi. C'est d'abord, la première étape, ça a été de m'apercevoir que ce qui était mémorisé... Alors, je vous parle de réseaux de neurones qui sont quand même capables qu'on intègre à une caméra en mouvement, et qui sont capables de détecter des objets complexes en mouvement, même lorsque la caméra bouge. Donc, on est quand même proche d'un cerveau visuel, proche de celui de l'humain, puisque d'ailleurs, ce genre de système était capable de mieux reconnaître certains types d'objets que l'œil humain lui-même. J'ai eu beaucoup de succès à faire ces travaux. C'est grâce à cela que j'ai pu monter une société qui s'appelait Uratech, et qui a travaillé avec les grands, qui a travaillé avec Thales, avec Logitech, avec Ifremer, Saint-Gobain, etc. J'avais quand même développé un système qui permettait de voir et de reconnaître, d'analyser, etc. Et là, je me suis aperçu de quelque chose d'absolument incompréhensible. C'est que l'information qui était mémorisée dans le réseau n'avait rien à voir avec une information qui permettait de reconstruire une image. C'est-à-dire que c'était, on va dire que c'est une information purement abstraite. Et il était impossible de reconstruire une image à partir de mon réseau de neurones qui pourtant comprenait parfaitement le contenu de l'image. Et ça, je me suis dit, bon, ben, c'est parce que ton réseau de neurones, il correspond pas du tout à un réseau de neurones tel que le cerveau humain en a. Et puis il m'a fallu, au bout de 5-6 ans, je me suis rendu compte que les collègues qui développaient les nouveaux réseaux de neurones, ceux qui se sont imposés aujourd'hui, avaient exactement le même problème, et qu'il fallait faire des opérations mathématiques extrêmement complexes, que le cerveau n'a pas ces fonctionnalités, pour arriver à reconstruire une image simplement alors qu'on utilise tout le cerveau pour mémoriser un seul objet, il faut faire des opérations extrêmement complexes pour arriver à reconstruire l'image de cet objet. Et là, j'ai compris que non, je ne m'étais pas trompé, parce que si moi j'aurais pu également faire ce genre d'effort. Et là, j'ai compris que la mémoire visuelle ne pouvait pas être fabriquée par le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, c'est une machine à analyser, c'est une machine à interpréter, à comprendre tout ce qu'on veut, mais pas à voir. C'est-à-dire que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent donner l'impression de voir, mais ne peuvent pas voir, ne peuvent pas avoir la conscience. Vous voyez, il faut bien séparer la capacité de comprendre ce qu'il y a dans une scène, etc., d'analyser tout ce qu'on veut, tout ce qui est de l'ordre du mental, mais la vision, non, c'est impossible. Et il y a une seconde raison qui m'est venue après, ou là, qui a terminé de clore mon avis sur la question, c'est le fait que j'ai beaucoup travaillé sur l'interaction des systèmes complexes, et je comprends que La lumière, quand elle pénètre la rétine et qu'elle pénètre à l'intérieur du cerveau, elle subit de maintes déformations. Et en plus, lorsque l'information est transférée d'une aire cérébrale à l'autre, etc., et que ça fait des allers-retours, il y a un processus complètement irréversible à ce niveau-là. Et si la conscience émerge de ce processus, elle ne peut en aucun cas reconstruire une image de l'environnement. C'est impossible. Voilà. Et donc ça, c'est... on va essayer d'avancer, mais...
Non, mais juste pour rebondir, en fait, la croyance actuelle des neurosciences, c'est que oui, quand on analyse la scène visuelle, ça va au final activer tout un réseau de neurones, et au moment où on se remémore l'image, c'est ce même réseau de neurones qui s'active. Et que c'est ça la base de la mémoire, c'est la réactivation d'un réseau de neurones. Là où ça coince, c'est qu'il y a plein de choses que l'on sait sans les avoir apprises. Parce que tout ça repose sur le fait d'avoir emmagasiné une mémoire au cours de notre expérience qui va façonner nos réseaux de neurones, nos synapses. Bon, on a bien sûr là derrière tout notre bagage génétique, épigénétique, peut-être aussi pour ceux qui y croient, nos vies antérieures, etc. Mais ça pose quand même problème quand des personnes reçoivent des informations qu'elles peuvent expliciter, qui arrivent à leur conscience, qu'elles n'ont pas vécu, qu'elles n'ont pas apprises. Et là, il y a plein d'expériences maintenant qui sont décrites par des laboratoires de recherche, qui sont étudiées intensément et qui posent problème, qui ne sont pas conciliables finalement avec cette vision que c'est l'activation, de réactivation de réseaux de neurones qui forgent notre mémoire. Ou en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait activer de novo des réseaux qui auraient une signification pour nous en allant peut-être piocher dans notre mémoire? Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc, peut-être qu'on peut parler de ces expériences-là, si tu veux.
Dans un second temps, parce qu'il faut avoir le nouveau cadre dans lequel on peut arriver à concevoir ce genre de choses, puisque le cadre neuroscientifique classique, il est capoute à ce niveau-là.
Hein. Je dirais qu'il est pas suffisant.
Voilà.
Il est utile, mais il n'est pas suffisant à pouvoir tout expliquer. Il explique beaucoup de choses déjà, mais il faut rajouter une couche.
D'accord. Alors, je voudrais quand même expliquer pourquoi la conscience n'est pas de la compétence des neuroscientifiques. Il y a une partie, bien entendu, je fais un peu de provocation, là. On peut arriver... Alors, la conscience, déjà, on ne sait pas... C'est lié à toutes les perceptions. Ne parlons pas de la conscience de soi. C'est au niveau des perceptions que on capte quelque chose, vient à la conscience. On arrive à expliquer plein de choses sur le plan analytique au niveau des perceptions, mais on n'arrive pas à expliquer comment les choses viennent à la conscience. On arrive à se rendre compte, je crois, qu'il y a quand même des phénomènes vibratoires, et notamment des phénomènes, des vibrations moléculaires qui sont à l'origine de nos sens. D'accord ?
Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les changements de conformation, voilà, des récepteurs, la circulation des ions de part et d'autre de la membrane.
Essayons de voir maintenant quel est le nouveau cadre qui nous permettrait de comprendre cette soi-disant émergence de la conscience. Alors, il y en a un. Si on considère que les perceptions ne sont pas expliquées par les neurosciences, par le cerveau, on peut changer le cadre et voir les choses de manière beaucoup plus simple. Ça va nous amener à considérer que la conscience, c'est le vide. Fait partie du vide, parce qu'on n'arrive pas à expliquer donc comment le cerveau produit la conscience, et pourtant on a des perceptions, et prenons par exemple la perception de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide, enfin dans l'espace vide. Qu'est-ce que c'est que le son? Le son, ce sont des ondes sonores, donc qui se propagent dans l'air. Et qu'est-ce que c'est que une matière qui vibre? Donc ça crée des vibrations de la matière, et toute vibration de la matière, donc c'est bien connu, ça c'est la théorie d'Einstein, crée des vibrations infinitésimales du vide. On a d'ailleurs eu la confirmation de cela à travers la découverte indirecte des ondes gravitationnelles. Mais enfin, il n'y a pas de discussion là-dessus. On sait qu'évidemment, tous les mouvements de matière créent des vibrations infinitésimales du vide. Et qu'est-ce que c'est que des vibrations moléculaires à la base des autres perceptions? C'est encore des vibrations matérielles qui engendrent des vibrations du vide. Donc, si on considère qu'il ne faut pas associer la conscience à la matière, au cerveau directement, mais si on qu'on considère qu'il faut l'associer au vide, on comprend beaucoup mieux qu'il n'y a rien à comprendre, puisque la conscience est le milieu dans lequel se propagent toutes ces perceptions. C'est-à-dire la lumière se propage dans la conscience, le son se propage dans la conscience. C'est-à-dire qu'on a, on n'a plus besoin d'expliquer à partir du moment où on assimile. C'est une vulgarisation un peu excessif que je fais, mais c'est pour aller assez vite. Alors, c'est à partir du moment où on associe la conscience au vide. Et le vide, la physique nous apprend qu'il est plein d'informations, justement. Il est plein d'informations vibratoires.
Philippe Guillemant, vous êtes très sollicité dans nombre de festivals, que ce soit en France ou à l'étranger. Qu'est-ce qui vaut le plaisir aux spectateurs de vous voir ici, au Festival des Foisonnantes ?
Ah ben, je suis là parce que ça fait maintenant 15 ans que j'expose une nouvelle vision de la réalité qui permet d'aller vers la spiritualité et donc vers beaucoup plus d'humanisme. C'est-à-dire que ce qui m'anime, c'est... On comprendra aujourd'hui, vu l'état du monde depuis la Covid, etc., qu'il y a une vision matérialiste de la réalité qui s'est imposée au niveau mondial et qu'il est fondamental d'en sortir pour évoluer vers le bien, quoi, pour avoir une société beaucoup plus harmonieuse. Enfin là, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et cette catastrophe, c'est la fin d'un paradigme. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, au niveau mondial, avec toutes ces guerres, ces virus, etc., c'est l'expression, finalement, de la fin d'un paradigme basé sur le mental qui considère que l'évolution, c'est le hasard ou le déterminisme. Et tout ça est complètement faux et on a oublié notre âme. Et donc, moi, je fais ces conférences depuis 15 ans pour revaloriser l'existence de l'âme, mais indépendamment de la religion. Je suis pas du tout dans la religion. Je suis complètement plutôt dans la laïcité. Et donc, comme il est de plus en plus criant qu'il est nécessaire de revaloriser cela et que les gens s'en rendent compte, ils le sentent, et ils sont en manque du fait que ça n'est pas exprimé par les gouvernements, ça n'est pas exprimé par les médias, on n'en parle pas, nos institutions l'ignorent. Donc c'est complètement délirant, quoi. Et donc le fait de réanoblir l'âme et de donner, parce que la science, on veut se fonder sur la science, parce qu'il y a tellement de... Il y a des charlatans, etc. On peut croire en n'importe quoi. Et donc la science nous apporte une base objective sur laquelle on peut vraiment s'ancrer. Et si la science se met à expliquer l'existence de l'âme, à ce moment-là, la société peut à nouveau évoluer dans le bon sens. Voilà. Et donc il est clair que je suis un peu animé par cette mission, ayant la compétence pour faire comprendre aux gens que l'âme existe et que c'est ce qui va nous permettre de devenir plus humains. C'est un devoir pour moi que de le faire et le public ne s'y trompe pas. Les gens viennent me voir pour cette raison-là précisément.
Philippe Guillemant, votre réaction face aux menaces qui ont été perpétrées vis-à-vis de certains conférenciers qui n'ont pas pu venir d'ailleurs, qui ne sont pas venus aux Foisonnantes ?
Bon, alors, c'est assez incompréhensible. Ces menaces, il n'y a pas la moindre personne qui soit ni antisémite, ni d'extrême droite dans notre groupe. Pas la moindre. Tout ça, ce sont des fausses informations. On se demande, les personnes qui répandent ces fausses informations se sont basées sur des écrits dont on ne connaît pas la source, qui sont quasiment anonymes. On n'arrive pas à rencontrer, à savoir qui est à l'origine de ces fausses informations. Et malgré cela, les grands médias comme Libération, BFM, etc., les retransmettent sans rien vérifier. C'est parce que... Donc notre groupe représente, on a l'impression que... Comment ferait un anonyme pour avoir une audience immédiate par BFM, par ces grands médias ? Il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Ces gens-là, en plus, sont financés. Les personnes qui écrivent des pamphlets pas possibles sur notre groupe, ils ont fait un gros travail. En plus, c'est bien écrit. Donc, il y a, dans ce mouvement qui targue d'être, je ne sais pas, antifasciste, d'ailleurs, c'est un mouvement fasciste, il y a des financements. Et donc, ça veut dire qu'il est probable que tout cela, et nous sommes des personnes issues de milieux complètement différents qui se retrouvent sur la même cause, finalement, qui est humaniste. rien à voir avec l'extrême droite, évidemment. Et je pense que c'est, on représente une menace pour un projet, je ne sais pas exactement lequel, peut-être le projet mondialiste, je ne sais pas, puisque ce sont, on sait que le mouvement mondialiste est financé par Soros et compagnie, etc. Enfin, Soros a beaucoup financé les mouvements Antifa, etc. Donc ce sont, je pense que c'est lié à ça, mais je ne sais pas exactement. C'est une idée, mais qui est peut-être fausse. Je n'ai aucune idée qui est à l'origine de toutes ces fausses informations. Alors on prétend que nous diffusons de fausses informations, mais en fait, ces personnes qui prétendent cela diffusent elles-mêmes de fausses informations. Donc c'est à n'y rien comprendre. Il suffit de venir nous voir pour constater qu'on a un langage tout à fait positif, tout à fait humain, tout à fait qu'on n'est pas, antisémite, on n'est pas d'extrême droite. C'est du grand n'importe quoi. C'est de la folie. Et d'ailleurs, je ne crois pas du tout qu'on soit menacé par quoi que ce soit ici, aujourd'hui. On verra tout à l'heure, soi-disant, il y aura une manifestation à 14h. Ben, je vais aller voir les manifestants. Je vais leur demander qu'est-ce qui leur arrive. Enfin, voilà. Moi, je n'y comprends rien. Enfin, voilà. Je fais quelques hypothèses sur l'origine, mais je n'ai pas de confirmation.
Hier, un conférencier vous a cité, il a parlé de vous, il a dit c'est un vrai scientifique, Philippe Guillemant, parce que il dit, je vous dis ça aujourd'hui, mais peut-être je me trompe.
Non, si je suis un vrai scientifique, c'est pour une seule raison. C'est le fait qu'un scientifique a le devoir de s'intéresser à tous les phénomènes inexpliqués. À partir du moment où les phénomènes inexpliqués sont avérés, il est absolument indispensable pour un scientifique de se pencher dessus, parce que c'est ça qui va faire évoluer la science. Et ça, je le fais. Je fais ce boulot, je fais ce job. Voilà. Et non seulement je m'intéresse à ces phénomènes-là, mais j'essaye de les reproduire, j'essaye de faire des publications, j'essaye de trouver des modèles explicatifs, etc. Et ça, c'est, à mon avis, c'est de la vraie science. Mais c'est une science qui dérange une certaine conception matérialiste qui correspond à l'ordre établi. Et cet ordre établi, on sait que tout ce qu'il a imposé, hein, il a imposé sa finance et il a imposé son système qui est un système dominant à dominer. Voilà, et on sait, enfin, je ne vais pas faire toute la description de l'état actuel de la société, la raison et le fait que tout ça, tout ce désordre mondial, comme le dit Valérie Bugeaud, ça vient de la finance. Ça vient du fait qu'on a fabriqué un système prédateur. Que nous sommes gouvernés par des prédateurs, pour ne pas dire psychopathes. Voilà. À un moment donné, il faut dire les choses. Toute cette violence, elle n'a aucune raison d'être. Certains se posent la question, est-ce qu'il faut qu'on fasse des procès en diffamation? Bon, si le collectif décide de faire ça, moi je soutiendrai cela. Mais bon, je ne pense pas franchement. On va voir ce qui se passe demain. On va voir si ce coup d'épée dans l'eau a réellement produit une manifestation. Je suis très curieux de voir quelle peut bien être la forme de cette manifestation, puisque les gens savent se reconnaître entre eux. Ils verront bien qu'ils n'ont pas affaire à des fachos. Ils verront bien, enfin, je veux dire, si n'importe qui vient parmi nous, il ne faudra pas plus que 2 minutes pour se rendre compte qu'on est plutôt des gens très, très, tout à fait dignes d'être écoutés, quoi. Enfin, donc, rien à voir avec ce qui peut être dit. Moi, je m'inquiète presque de l'état de santé de tous ces journaux, de tous ces médias qui en sont arrivés à faire eux-mêmes de la désinformation. Je m'inquiète, franchement, quand on s'aperçoit de l'état du monde en ce moment, on a l'impression qu'il y a vraiment une décadence de l'Occident et qui s'exprime non seulement au niveau des États, mais à des niveaux tout à fait terre-à-terre, comme celui d'un simple festival. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, bon, ça c'est juste une parenthèse, ce festival, je trouve, est d'une très grande qualité. Et c'est à mon avis ça qui choque, c'est la capacité des foisonnantes à intervenir, des intervenants de très grande qualité, qui ont effectivement comme caractéristique de ne pas être tout à fait conformistes. D'accord ? Je pense que c'est ça qui a fait peur, et qui a fait peur à des instances alors, qui sont anonymes, hein, parce qu'on cherche à savoir qui est à l'origine de tous ces dénigrements. On a du mal. On entend parler d'un collectif antifasciste, mais on ne sait pas qui est derrière. On n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui est derrière. Par contre, il y a un grand talent qui est, qui est investi dans tous ces dénigrements, et on se demande si ces gens-là ne sont pas payés. On a l'impression qu'il y a une instance qui est très bien financée, qui se cache derrière toute cette désinformation. On a cette impression-là, d'accord ? Parce que c'est assez hallucinant. Si vous écoutez une par une chaque personne qui intervient ici, ben vous avez un discours de très grande qualité. Mais le fait qu'on se réunisse apparemment représente un danger pour... Alors, je ne sais pas. Alors, voilà.
Vous présentez la personne qui est à côté ?
Alors, je vous présente Christophe Cosset, qui est le réalisateur des films Wake Up. Ces différents épisodes qui ont déjà été projetés, le numéro 1... Et le numéro 2, c'est « Tout est information » que j'ai eu le plaisir d'animer durant une soirée. Je te laisse la parole.
Alors, on sent cette complicité avec Philippe Guillemant, on sent cette harmonie, j'ai envie de dire.
Oui, l'harmonie, c'est quelque chose qui me plaît bien parce que c'est musical, hein, n'est-ce pas ? Ben oui, ici, là où nous sommes, il y a aussi cette grande harmonie, mais que ne perçoivent pas ceux qui tentent de décrier cette belle initiative. Mais ça me fait penser... à ce fameux adage « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage hein ». Moi, je dirais que ainsi est fait le monde, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu comme principale arme pour détruire le soi-disant ennemi, colporté des fausses informations, de la diffamation, tout ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, bon. J'ai une attitude plutôt détachée vis-à-vis de ça, ça me fait sourire. Et au moins, ce qui m'amène à vous dire que cette innocence avec laquelle nous venons ici, c'est notre force. Mais manifestement, comme disait Philippe, ça a l'air de déranger. Être associé au fascisme, ça me fait bien marrer parce que la définition du fascisme, c'est la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir financier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays, et ainsi que dans d'autres ? Mais c'est exactement ça. Et cette bien-pensance n'a pas les yeux suffisamment ouverts pour le remarquer. Voilà. Moi, je trouve ça risible.
Justement, cette flamme qui brûle en vous, vous la transmettez, mais le fait qu'il y ait peut-être des obstacles pour la transmettre, ça ne vous décourage pas un peu à un moment ?
Non, parce que c'est le propre de toute dramaturgie. Et bon, je suis auteur, hein, donc c'est pour ça que je me réfère à la dramaturgie. Il faut qu'il y ait des obstacles, parce que non seulement ça remet en question ce que nous sommes, ça remet en question ce que nous véhiculons. En tout cas, personnellement, moi, ces obstacles me galvanisent plus que ne m'anéantissent.
Philippe Guillemant, vous avez assisté à deux conférences déjà sur l'événement Les Foisonnantes ici assisteront. Vous en ressortez avec quelle impression ? Parce que j'ai remarqué que vous étiez très attentif.
Eh ben, j'ai été étonné par la très grande qualité des conférences. Ce n'est pas spécialement mon centre d'intérêt personnel, ce qui a été dit sur les enfants, etc. Mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé que c'était vraiment d'un très bon niveau.
Pour demain, pour votre conférence, le public est attendu, Philippe Guillemant ?
Oui. Il semblerait que finalement le public ait décidé de venir en très grande majorité le dimanche. Je pense que ça tient à la présence de certaines têtes d'affiche. Je ne me mets pas dedans. Hein, mais...
Je pense que vous en faites partie quand même de ces têtes d'affiche. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'atmosphère même, puisque c'est la deuxième année à laquelle vous participez aux Foisonnantes. Qu'est-ce que vous pensez de l'esprit même qui ressort à la fin, par exemple, d'une édition ?
Ah ben, l'année dernière, c'était fantastique. Même pendant tout le déroulé de l'événement, il y avait une superbe ambiance et tout le monde a extrêmement apprécié.